Voilà, alors donc aujourd'hui c'est le septième chapitre de Amoris Laetitia. Ce septième chapitre qui commence au numéro 259 jusqu'au 290. Voilà, alors c'est un chapitre consacré à l'éducation. Donc on va parler d'éducation. Alors j'ai pensé qu'avant même d'entrer dans le texte du pape François, peut-être que je peux reprendre quelques éléments qu'avait donné Benoît XVI, qui me semble très intéressant sur l'éducation. Alors, Benoît XVI en a parlé à diverses reprises, il en a parlé notamment dans son message pour la paix en 2012. Il en a parlé aussi quand il s'est adressé à ses diocésains de Rome, le 21 janvier 2008. Voilà, c'est deux dates plus marquantes. Il en a parlé aussi dans d'autres circonstances, mais voilà. Alors, éducation, vous savez d'où ça vient. J'y reviendrai peut-être un peu tout à l'heure. C'est ex ducere, conduire en dehors. Il y a un psychiatre qui disait que, justement, on n'éduque pas par la séduction. Parce que la séduction, c'est le contraire, on ramène plutôt à soi que conduire les enfants, voilà, au large, on pourrait dire. Alors, je vous cite Benoît XVI, « L'éducation est l'aventure la plus fascinante et difficile de la vie. Éduquer, du latin « educere », signifie conduire hors de soi pour introduire à la réalité, vers une plénitude qui fait grandir la personne. » Et alors dans l'éducation, donc il y a le disciple et l'éducateur. Voilà. Et après, il donne trois lignes. Alors, même avant de donner ces trois lignes, donc l'éducation, enfin, je crois que c'est évident pour vous, c'est pas la même chose que le dressage. Alors, quelle est la différence ? En dressage, on ne fait pas tellement appel à l'intelligence, tandis que dans l'éducation, on fait appel à l'intelligence. Alors, ceci dit, dans l'éducation, on pourrait l'éduquer mieux, ou le dresser mieux, le chien ici, qui a à voir, mais bon, c'est peut-être trop tard d'ailleurs. Mais n'empêche qu'il y a une partie quand même dans l'éducation où on est appelé à surmonter ses frustrations. Voilà. L'éducation aussi n'est pas la même chose que l'instruction. C'était des choses que vous savez, mais ça fait parce que l'instruction, donc, alors cette fois-ci, à la différence de du dressage, on fait appel à l'intelligence, mais l'éducation, c'est beaucoup plus large que l'intelligence. On fait appel à la volonté aussi dans l'éducation. Et l'éducation, c'est pas simplement apprendre des choses. Benoît XVI était très sensible à la question de la vérité. Donc, dans différentes situations, il a rappelé ça. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Par exemple, dans le discours qu'il avait fait le 21 janvier 2008, chez le petit enfant, déjà, il existe un grand désir de savoir et de comprendre qui se manifeste dans ces questions et ces demandes d'explication incessantes. Une éducation qui se limiterait à fournir des notions et des informations, mais qui laisserait de côté la grande question concernant la vérité, surtout cette vérité qui peut servir de guide dans notre vie, serait une bien pauvre éducation. Et dans son encyclique Caritas in Veritate, sans vérité, on aboutit à une vision empirique et sceptique de la vie, incapable de s'élever au-dessus de l'agir, car inattentive à saisir les valeurs et parfois même le sens des choses qui permettraient de la juger et de l'orienter. Alors, dans l'éducation, du coup, derrière ce que dit Benoît XVI, là, c'est aussi toute une vision de la personne qu'on a dans l'éducation. Si on pense que la personne humaine, c'est surtout bien manger, bien et puis savoir beaucoup de choses, l'éducation, elle sera assez limitée. Tandis que l'éducation, ça suppose C'est vrai que l'éducation chrétienne, ça suppose une vision de la personne humaine qui est à l'image de Dieu, etc. Alors, donc, l'éducation n'est pas du tout la même selon qu'on pense qu'un enfant est à l'image de Dieu et appelé à entrer en communion avec lui et entrer un jour au paradis, que voilà, si c'est juste qu'il se débrouille bien sur la terre, tu s'en tirerais au mieux. C'est pas la même chose, l'éducation. Donc, voilà. Alors, ça, c'est quelques éléments préliminaires, on pourrait dire, que nous donne Benoît XVI. Et après, il donne trois directions. Alors, je vous les donne parce que moi, ça m'a éclairé. Trois directions fondamentales de l'action éducative. Une première direction, c'est le développement de la personne. La deuxième, ça sera plus au niveau de la sociabilité, du lien avec les autres, la socialisation de la personne. Et une troisième chose, c'est plus sur le sens de la vie, le but de notre vie, la finalité de notre vie. Alors, la première chose, je pense que ça peut nous aider à, si je le donne au début, ça peut nous donner quelques repères, justement, dans l'éducation. Donc, d'abord, l'éducation, c'est pour aider la personne à se développer. Et développer, notamment, sa liberté. Pour être libre et responsable. Alors, je peux peut-être vous citer encore un peu Benoît XVI. C'est la tâche de l'éducation de former à la liberté authentique. Celle-ci n'est pas l'absence de lien ou le règne du libre arbitre et n'est pas l'absolutisme du jeu. L'homme qui se croit absolu, qui n'est dépendant de rien et de personne et qui croit pouvoir faire tout ce qu'il veut finit par contredire la vérité de son propre être et par perdre sa liberté. Au contraire, l'homme est un être relationnel qui vit en relation avec les autres et avec Dieu surtout. La liberté authentique ne peut jamais être atteinte dans l'éloignement de Dieu. Pour exercer sa liberté, l'homme doit alors dépasser l'horizon relativiste et connaître la vérité sur lui-même, la vérité sur le bien et le mal. C'est un peu comme un GPS, il faut qu'il ait un repère, le GPS. S'il n'a pas de repère, il ne sait pas comment conduire. Et donc, alors, c'est d'abord ce développement de la personne, c'est la personne dans toutes ses dimensions. Voilà. Après, deuxième ligne de l'éducation, c'est la socialisation de la personne. De former des êtres sociables et capables d'aimer. Alors là, c'est clair que dans la famille, alors là, c'est le lieu de la socialisation par excellence, la famille. C'est là qu'on apprend à dire « s'il te plaît »,« merci », »,« pardon ». Alors, ça ne vient pas forcément du premier coup, mais... Voilà, ça demande un peu de patience, les règles de politesse. Ah, cette fois-ci, je vais vous citer Jean-Paul II, dans son message pour la paix en 1994. Il appartient aux parents de former leurs enfants au respect de la dignité de toute personne et aux valeurs de la paix. Plutôt que de les enseigner, il faut témoigner de ces valeurs dans un milieu familial, où l'on vit l'amour oblatif capable d'accueillir l'autre dans sa différence, en assumant ses besoins et ses nécessités, et en le faisant participer à ce que l'on a soi-même. Les vertus familiales, fondées sur le profond respect de la vie et de la dignité de l'être humain, et se traduisant par la compréhension, la patience, les encouragements et le pardon mutuel, donne à la communauté de la famille la possibilité de vivre l'expérience première et essentielle de la paix. Voilà. Et du coup, l'éducation donne à quelqu'un de s'intégrer harmonieusement dans la vie sociale. On voit que ceux qui n'ont pas reçu d'éducation dans leur famille, ils ont un peu de mal à s'intégrer harmonieusement dans leur milieu de travail ou dans un groupe, voilà, parce qu'ils n'ont pas forcément reçu des choses qu'on apprend dès la petite enfance. Donc, première dimension, donc, le développement de la personne. Deuxième dimension, plutôt dans ce lien avec l'autre. Et troisième dimension, dans ce lien avec l'autre, avec un grand A, avec Dieu. Donc, Donc, où on transmet des valeurs et on transmet un sens de la vie. Parce que la personne humaine, elle agit aussi avec un but. Hein, si on n'a pas de but dans notre vie, on a beau être bien éduqué et tout ça, mais voilà, il nous manque. Voilà, alors ça, c'est une troisième dimension de l'éducation, de transmettre des valeurs et transmettre la foi. Voilà, alors maintenant, après cette introduction, où je me réfère plus au pape précédent qu'au pape François, j'en viens donc au numéro 259 du pape François. Les parents influent toujours sur le développement moral de leurs enfants, en bien ou en mal. Alors qu'on le veuille ou non, si c'est pas en bien, ben, ça risque d'être en mal. Donc, il vaut mieux que ça soit en bien, tant qu'à faire. Par conséquent, ce qui convient, c'est qu'ils acceptent cette responsabilité incontournable et l'accomplissent d'une manière consciente, enthousiaste, raisonnable et appropriée. Étant donné que cette fonction éducative des familles est si importante et qu'elle est devenue très complexe, je voudrais m'arrêter spécialement sur le point. Donc, ça, c'est son introduction. Alors, je voudrais reprendre les qualificatifs qu'il donne pour cette responsabilité éducative. Donc, d'abord, qu'elle est consciente. Et que les parents aient conscience, justement, de l'importance de l'influence qu'ils exercent. Hein. Les parents influent toujours sur les développements moraux de leurs enfants. Donc. Deuxième chose, enthousiaste. Alors, on reconnaît bien le pape François qui est plutôt dans l'enthousiasme pour relever les défis. Et c'est vrai que quand quelqu'un est plus enthousiaste, ben, on a plus envie de le suivre. Quand quelqu'un est un peu. Bon, après, on a nos moments où on est peut-être un peu déprimé, ou voilà, mais une des choses importantes qu'on peut transmettre à nos enfants, c'est un certain enthousiasme pour les entraîner. C'est sûr qu'on a plus. C'est plus facile de suivre quelqu'un d'enthousiaste que suivre quelqu'un de déprimé. Ça, c'est clair. Après, raisonnable. Ça suppose que. Les parents sont invités à réfléchir sur l'éducation. Alors, bien sûr, qu'on le veuille ou non, on est marqué par l'éducation qu'on a nous-mêmes reçue, mais de prendre un peu de distance par rapport à ce qu'on a reçu, c'est peut-être pas exactement de la même manière ou pas de la manière antithétique qu'il faut faire, mais voilà, de faire marcher son intelligence pour essayer de comprendre. Et autre qualificatif que donne le pape dans ce paragraphe, approprié. Parce que du coup, il faut s'adapter, bien sûr. Parce que selon les enfants, on ne s'y prend pas de la même manière. Selon l'époque où on est, on ne s'y prend pas de la même manière. S'il y a des choses qui marchaient il y a 30 ans, ça ne marche pas forcément maintenant. Donc, il y a besoin de s'adapter. Hein. Donc, approprier, il faut s'ajuster. Alors, bon, ça demande un effort, tout ça. Hein. Voilà. Alors, donc, ça, c'est l'introduction à toute cette partie sur l'éducation. Et alors, donc, dans cette partie. Il y a quelques têtes de chapitres, on pourrait dire. Il y en a 6, 7. Chiffre parfait. Le premier titre, c'est Où sont les enfants? Alors, je développerai après. Deuxième, c'est plus sur la formation morale des enfants, numéro 263-267. Après, sur les sanctions 268 à 270, après sur un réalisme patient, bon, parce que il faut s'ajuster avec ce qu'on est, avec ce que sont les enfants, bonjour. Après, sur la vie familiale en tant que telle, comme lieu d'éducation. On n'éduque pas simplement par ce qu'on dit, mais aussi par la manière dont on vit au quotidien. Un paragraphe, une petite partie sur l'éducation sexuelle. et une septième partie sur la transmission de la foi. Voilà, alors ça vous donne un peu des grandes têtes de chapitre, hein, donc, mais je vais y revenir. Voilà. Alors donc d'abord, où sont les enfants? Alors je ne sais pas ce que vous inspire ce titre, vous vous demandez un petit peu de quoi il va parler derrière. Alors, finalement, c'est pas tellement de savoir où il est géographiquement, c'est un peu où en est l'enfant, où il se situe du point de vue de ses convictions, ses objectifs, ses désirs, son projet de vie. C'est ce qu'il dit dans le numéro 261. Du coup, ça suppose une vraie ouverture à ce que l'enfant est en train de vivre. Hein, on plaque pas une éducation a priori, mais on essaie de savoir pour que l'éducation soit appropriée, justement, qu'elle soit. Bon, on essaie de voir où en est l'enfant. Bon, à vrai dire, je vous parle, mais vous savez certainement ça bien mieux que moi, parce que vous l'avez ou vous êtes en train de le réaliser, mais bon. Alors, dans le numéro 260, le pape François invite à ne pas se démobiliser par rapport à l'éducation. Et c'est les parents qui restent les premiers éducateurs pour leurs enfants. Et du coup, de savoir aussi à qui et à quoi on expose les enfants. Alors, par les films, l'école, enfin les amis... Après, ça dépend de l'âge, tout ça. Hein. Bien sûr, on s'adapte aussi en fonction de l'âge. Mais du coup, c'est quelquefois facile, surtout si on est fatigué, qu'on a des journées de travail épuisantes. Bon, on les met devant la télé et puis pendant ce temps-là, on peut faire autre chose. Mais voilà, c'est pas forcément l'idéal. Alors après, on peut choisir aussi ce qui est bon pour eux. Mais de toute façon, il dit que c'est important de passer du temps avec les enfants, de créer des activités pour eux. On ne peut pas les laisser à eux-mêmes. Alors, là encore, il dit, mais il ne faut pas tomber dans la paranoïa et puis en leur faisant peur, etc. Il faut les avertir des dangers, effectivement, mais enfin, sans tomber non plus dans un autre extrême. Il faut les protéger, mais pas les surprotéger. Il faut les aider, justement, à la... Encore une fois, pas en leur inoculant une peur déraisonnée, mais en les rendant attentifs au danger. On le fait bien pour qu'ils traversent la route, pour que voilà. Mais dans d'autres situations, bon, on leur signale le danger, mais après, il ne s'agit pas non plus de les terroriser. Et puis, bien sûr. C'est aussi toute la marge de risque qu'on prend dans l'éducation. Alors là encore, selon l'âge de l'enfant, ça change, hein, mais les adolescents ont envie de prendre davantage de risques, bien sûr. Alors, et c'est bien qu'ils puissent dépasser un peu leurs limites. Bon, après, il y a beaucoup de prudence. Hein, s'il faut exercer la prudence dans un domaine, c'est bien dans celui de l'éducation. Parce que bon, il faut s'adapter sans cesse, hein, et s'adapter en fonction de l'enfant, encore une fois. Un des buts de l'éducation, c'est de... L'éducation, dit le pape, comporte la tâche de promouvoir des libertés responsables. Finalement, alors quand ils sont tout petits, bon, il y a des règles beaucoup plus claires. Et puis après, au fur et à mesure qu'ils grandissent, ben, ils doivent agir par eux-mêmes. Donc petit à petit, ça ne sert à rien d'imposer des règles de l'extérieur. Enfin, trop de règles. Il y a des règles, oui, bien sûr. Mais après, l'idéal, c'est qu'après, ce soit l'enfant lui-même qui se détermine. C'est à ça qu'on l'éduque petit à petit, à ce qui, voilà, qu'il l'intègre. Alors, ah, ça me fait penser à une chose qu'on a dans notre règle de vie. Il nous est dit que, voilà, nous avons une forme de vie, c'est un terme un peu technique. Voilà, donc on prononce des vœux de pauvreté, chasteté, obéissance, il y a un cadre dans la vie religieuse. Mais cette forme de vie n'est pas un but en soi. Le but, c'est dit aussi, c'est d'acquérir les sentiments du Christ Jésus. Donc c'est d'intérioriser. Alors c'est bien d'avoir des règles, mais après l'essentiel, c'est pas les règles, c'est de les intérioriser et après de se débrouiller tout seul, quoi. C'est ça qui est intéressant dans l'éducation. Donc c'est promouvoir des libertés responsables. C'est au début, il y a des échafaudages à l'extérieur, mais après, la structure, c'est il doit avoir sa colonne vertébrale lui-même. Alors, donc, ça suppose un juste équilibre entre la liberté et la discipline. Voilà ce que disait Benoît XVI en 2008, toujours. Nous en arrivons ainsi au point sans doute le plus délicat de l'œuvre éducative, trouver un juste équilibre entre la liberté et la discipline. Sans règles de comportement et de vie, mises en évidence jour après jour, jusque dans les petites choses, on ne forme pas le caractère et on n'est pas préparé à affronter les épreuves qui ne manqueront pas à l'avenir. Cependant, la relation éducative est avant tout la rencontre de deux libertés, et l'éducation bien réussie est une formation au bon usage de la liberté. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, il devient un adolescent, puis un jeune. Nous devons donc accepter le risque de la liberté en demeurant toujours prêts à l'aider à corriger des idées et des choix erronés. En revanche, ce que nous ne devons jamais faire, c'est de le seconder dans ses erreurs, faire semblant de ne pas voir ou pire de les partager comme si elles étaient les frontières du progrès humain. Alors ça, c'était la petite partie. Où en sont les enfants? Où sont les enfants? Et numéro 260 à 262. Après, donc, du numéro 263 à 267, le pape François aborde la question de la formation morale des enfants. C'est important que les parents aient une autorité morale vis-à-vis de leurs enfants. Alors, cette autorité morale, elle vient notamment par leur témoignage, par une certaine cohérence de vie. Parce que, bon, en plus, les adolescents, déjà quand ils sont plus jeunes, mais les adolescents savent bien pointer le doigt sur les incohérences. Tu me demandes ça, mais toi, voilà. Je vous recite encore Benoît XVI. L'éducation ne peut donc pas se passer de cette autorité morale qui rend crédible l'exercice des rapports d'autorité. Elle est le fruit de l'expérience et de la compétence, mais s'acquiert surtout par la cohérence de sa propre vie et par l'implication personnelle, expression de l'amour véritable. L'éducateur est donc un témoin de la vérité et du bien. Certes, il est fragile lui aussi et peut se tromper, mais il cherchera toujours à être en harmonie avec sa mission. Cette autorité morale, on voit bien d'ailleurs dans les moments difficiles, ce qui nous aide, c'est quand, je pense, ça vaut pour les enfants, ça vaut aussi pour nous, quand il y a quelqu'un qui nous a enseigné des choses et puis après qui vit n'importe comment, ben ça vient saper un peu tout ce qu'il nous a enseigné. Inversement, quand on voit quelqu'un qui nous enseigne quelque chose et on le voit le mettre en pratique. Alors je ne canonise pas, mais Père Jean m'a beaucoup marqué pour ça. Dans les moments difficiles, ben c'est vrai que c'était précieux. On savait qu'il y avait une cohérence dans ce qu'il vivait et dans ce qui. Alors du coup, dans les moments difficiles, c'est ça qu'on regardait, c'était cette cohérence. Les paroles, elles n'ont pas beaucoup de poids dans les moments un peu compliqués. Mais quand on voit la cohérence, alors là, c'est beaucoup plus fort. Et c'est un peu la même chose pour les parents vis-à-vis de leurs enfants. Hein. Bon, après, comme dit bon, on est fragile, on n'est pas. Voilà, on a nos défauts, Mais après, moi, se laisser aussi corriger par ses enfants. Hein, quand, et puis voilà. Alors, autorité, vous savez de quel mot latin ça vient? Ça vient de augere, faire croître, augmenter. Alors, et donc, faire grandir et éduquer, alors c'est. On disait que c'était conduire hors de soi, mais là, une autre manière de dire, c'est conduire hors des chemins de la facilité, éduquer. Voilà. Encore une fois, bon, je me répète un petit peu, mais l'éducation, ça ne consiste pas seulement à transmettre des connaissances. Je vois en vie communautaire, c'est vrai aussi en vie communautaire, il ne suffit pas de dire quelque chose pour que ça fonctionne. C'est essayer de comprendre comment ça pourrait fonctionner mieux, etc. Mais dire les choses, c'est assez limité quand même l'impact de nos paroles. Dans certains cas, ça a quand même un impact, ça a un vrai impact, mais ça ne suffit pas les paroles, ça suffit de réfléchir comment s'y prendre, etc. D'ailleurs, je pense à la formation des prêtres. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le séminaire français à Rome. Non, pas trop. Bon. Alors, il y a deux lieux. C'est pour illustrer ce que je viens de dire. Il y a deux lieux. Il y a le lieu où ils vont étudier à la grégorienne, habituellement, chez les jésuites. Donc, ils vont former leur tête. Mais après, ils ont leur vie au séminaire. Et là, il y a une communauté éducative. Et la vie au séminaire est au moins aussi importante que... Parce qu'apprendre... Connaître beaucoup de choses, c'est pas ça qui fait un bon prêtre. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se passent plus dans les rapports humains, voilà, dans la manière d'exercer l'autorité, dans la manière... Donc, bon, apprendre des choses, c'est important aussi. Il ne faut pas que les prêtres soient complètement ignares. Hein. Je ne dis pas le contraire. Donc, les deux choses sont importantes. Mais si on pourrait dire dans l'éducation pour les enfants, c'est la même chose. C'est bien qu'ils apprennent des choses, mais c'est qu'une petite partie. Il y a des gens qui savent des tas de choses, mais qui sont complètement handicapés au niveau des relations sociales, qui ne savent pas s'intégrer dans un groupe. Et il vaut mieux... en savoir un peu moins, mais savoir s'intégrer dans un groupe. Hein, donc, voilà. Alors, du coup, ça suppose aussi cette autorité morale, je reviens à ça, que les enfants puissent faire confiance à leurs parents, que les parents, aussi souligne le pape, montrent qu'ils sont fiers de leurs enfants, sans en faire non plus des idoles. Ah, je vous recite Benoît XVI, toujours en 2008, il avait dit plein de choses intéressantes. Vous pouvez lire tout le discours si ça vous intéresse. L'éducation a besoin avant tout de cette proximité, de cette confiance qui naissent de l'amour. Je pense à l'expérience première et fondamentale de l'amour que font, ou du moins devraient faire, les enfants avec leurs parents. Mais tout éducateur véritable sait que pour éduquer, il doit donner quelque chose de lui-même et qu'ainsi seulement il peut aider ses élèves à surmonter leurs égoïsmes et à devenir, à leur tour, capables d'un amour authentique. Et du coup, là, on peut pointer le... Aujourd'hui, quelquefois, les parents ont peur de perdre l'amour de leurs enfants. Il y a des modèles éducatifs qui changent un peu selon les périodes. À une période, c'était un peu plus autoritaire et puis tu poses pas de questions. Là, quelquefois, la séduction a beaucoup plus de place dans une forme de séduction, mais qui n'aide pas plus les enfants. Hein, parce qu'il y a un lien affectif. Alors, il faut vraiment aimer les enfants, il faut qu'on sache qu'on les aime, mais en même temps, c'est un vrai amour, c'est pas uniquement quelque chose d'ordre sensible. Parce que ça n'aide pas fort. Un amour un peu viril aussi, quelque part. C'est pas un amour un peu poisseux. Ou alors on s'attache l'enfant à soi-même parce qu'on a peur de le perdre d'une certaine manière. Ou... Non, c'est un amour aussi qui sait exiger de... Alors, au numéro 264, il parle du développement des bonnes habitudes. Et avant même ça, il parle de la frustration, bon ça c'est clair, hein, que les enfants ont besoin, et nous encore, on a besoin d'intégrer un peu ces frustrations. De toute façon, on en aura dans notre vie, donc si on ne l'apprend pas déjà quand on est petit, ben, ça sera compliqué après. Mais apprendre la frustration, apprendre aussi l'empathie. Alors bon, il y en a qui sont plus ou moins disposés, mais sinon, si on est trop narcissique et trop centré sur soi-même, on ne perçoit pas le mal qu'on peut faire aux autres. Dans ce paragraphe, 264, le pape indique trois éléments: l'éducation de la volonté, le développement des bonnes habitudes et les tendances affectives au bien. Alors, l'éducation de la volonté, alors là c'est assez jésuite. Le pape Benoît XVI insistait beaucoup sur la vérité, hein, quelque chose d'objectif en dehors de nous. Ça ne s'oppose pas, hein, mais c'est un accent qu'on met un peu plus d'un côté ou d'un autre. Le pape François insiste beaucoup plus, et il est dans la tradition jésuite, sur la volonté, sur l'éducation de la volonté. Dans le scoutisme, on éduque beaucoup à la volonté. Hein. Et c'est important, et c'est quelque chose de précieux. Mais il y a besoin des deux, en fait, hein, dans l'éducation. À la fois un repère objectif qui est la vérité, puis à la fois éduquer la volonté, c'est un peu le moteur qui nous fait marcher, qui nous fait... Alors, la volonté, il ne faut peut-être pas la voir comme quelque chose... On parle de volontariste, ou à la force du poignet, on y va. La volonté, ce n'est pas ça, hein, dans la théologie de saint Thomas d'Aquin. La volonté, c'est une capacité d'aimer le bien. Donc, ça suppose, par l'intelligence, de voir le bien... et après de tendre vers ce bien. Mais du coup, ce n'est pas se forcer absolument, c'est d'abord voir ce qui est bien et donc franchir les obstacles pour atteindre ce bien. Mais ça suppose d'éduquer les enfants au courage. Alors comme on a une vie quand même beaucoup plus facile aujourd'hui, enfin du point de vue matériel en tout cas, hein, il y a d'autres points de vue où c'est pas plus simple qu'avant, parce que mais du point de vue matériel, c'est plus confortable, on mange bien, grosso modo. On est quelquefois un peu invité à la mollesse plutôt qu'au courage. Et alors le pape insiste, voilà, il faut apprendre l'effort, et ça ne se fait pas tout seul. Donc il donne trois éléments: l'éducation de la volonté, le développement de bonnes habitudes. On appelle la vertu. On voit. Alors il y a des vertus qui sont d'ordre moral, hein, la prudence, la justice, la force, la tempérance et toutes les autres qui s'y rattachent. Mais il y a aussi des vertus dans d'autres domaines. Pour jouer au piano, ben, ce n'est pas le premier jour qu'on est un virtuose, c'est évident. Bon, on peine bien, et puis c'est pas très agréable à écouter, et puis on ne prend vraiment pas de plaisir, c'est difficile. Mais c'est pareil dans les autres domaines de notre vie. Hein, ça s'apprend aussi. Et dans le domaine moral en particulier. Souvent avec les fiancés ou... ceux qui viennent pour les week-ends avant Louis, bon, on parle de la chasteté. Cette éducation pour apprendre une saine maîtrise de soi, parce que sinon, Mais ça ne se fait pas en un jour d'intégrer notre sexualité. Ou, voilà. Mais ça vaut dans tous les domaines de notre vie. Hein. C'est le développement de bonnes habitudes. Et il parle d'un troisième élément qui développera dans le numéro suivant, les tendances affectives au bien. Alors ça rejoint quelque chose que j'ai été dire. À la fois il dit d'éduquer au courage, on pourrait dire, à la volonté, mais à la fois ces tendances affectives au bien, pour lui, c'est finalement voir ce qu'il y a de bon dans ce qu'on fait. Parce qu'on ne fait pas les choses parce qu'il faut les faire, mais parce que ça nous semble bien. Et du coup, c'est toujours important de montrer aux enfants en quoi ce qu'on leur demande est bon. Et alors, le pape François invite à rendre les choses désirables. Parce que si on ne voit pas les choses comme désirables, on a un peu de mal à renoncer au principe du plaisir. On fait le plaisir immédiat, mais quand c'est un bien un peu plus lointain, prendre un médicament qui n'est pas très bon, par exemple, bon, on le fait parce qu'on y voit un bien, mais sur le coup, c'est pas très agréable, et puis voilà. Mais si on ne voit pas le bien que ça représente, on n'a aucune envie de le prendre, quoi. Hein, donc, dans l'éducation, on montre des biens quand même qui sont plus grands, mais peut-être moins immédiat et moins facile. Et si c'est important, peut-être encore plus à notre époque, de montrer qu'il y a des normes, mais que ces normes, de montrer le bien qu'elles représentent, ces normes. Parce qu'on a un peu de mal quand on ne voit pas pourquoi faire les choses. Et du coup, ça suppose de voir les choses de façon un peu concrète. Alors, peut-être justement un petit mot sur les efforts, etc., puisqu'on est en temps de carême. Vous avez commencé à faire plein d'efforts. Oui. Pour donner le goût de l'effort à un enfant, on peut montrer qu'on est fier quand ils ont réussi certaines choses qui étaient difficiles, etc. Enfin, il y a différentes manières dont on les aide à se donner un objectif et y répondre. Mais pour nous, on a du mal pour faire des efforts, il me semble qu'il y a quelques éléments qu'il faut avoir à l'esprit, peut-être. Déjà, c'est de pas prendre la première idée qui nous vient à l'esprit, mais d'abord la mûrir un peu, cette idée. Si on ne mûrit pas trop cette idée, ben voilà, l'effort il risque de ne pas durer très très longtemps. Mais de voir combien c'est bien pour nous, combien c'est une chose importante de prendre un peu de temps pour voir le bien qu'elle représente. Et pour se déterminer soi-même, quelque part, c'est de choisir vraiment cet objectif. Après, je pense qu'il y a un autre élément, c'est d'avoir un objectif suffisamment concret. Quand on fait un effort, si c'est un effort un peu flou, on ne risque pas d'avancer beaucoup. Bon, je vais essayer d'être plus gentil. Bon, oui. Mais il y a peut-être des choses un peu plus précises, sinon on aura un peu de mal à... Un autre élément qui est vrai aussi pour le temps du carême, c'est aussi, notamment parce qu'on ne le fait pas tout seul les efforts, on est là en communauté, bon, on sait que c'est un temps, bon, on y est plus attentif à faire des efforts, alors le fait d'avoir un entourage, on est soutenu par un réseau, on pourrait dire, on veut faire des progrès, on veut se convertir, alors ça nous aide aussi d'être pris dans une sorte de dynamique. Et on ne fait pas non plus un effort simplement par peur, par culpabilité, mais encore une fois parce qu'on voit des raisons positives de changer. Parce que si c'est juste la peur, c'est pas un bon moteur pour changer. Alors, au 266, il continue, il est nécessaire de développer des habitus, d'avoir donc des comportements extérieurs. Alors, on pourrait dire, on apprend aussi les bonnes manières en famille, la politesse. Alors, ça peut paraître un peu du dressage à certains moments, parce que, mais c'est très précieux quand, pour un enfant qui intègre ça. Après, voilà, il part avec quelques longueurs d'avance dans la vie. Hein. Je vous ai déjà raconté l'histoire des novices. Là, il y avait deux novices argentins qui venaient d'une famille. Il était avocat à Buenos Aires, il avait reçu une bonne éducation et tout ça. Un qui avait été élevé dans un bidonville, qui s'est été éduqué lui-même, si on peut dire. Ben voilà, alors lui, il y a des tas de réflexes qu'il n'avait pas. Ce n'était pas de mauvaise volonté, mais de fait, on ne lui avait jamais appris. Tandis que l'autre, ben, dans sa famille, on lui avait appris, il savait les formes et tout ça pour demander, l'autre, il se servait. Et puis... Alors du coup, aussitôt, ça suscitait des réactions en face, positives ou négatives, selon le comportement. Voilà. Mais du coup, cette éducation, elle aide à intérioriser les choses, parce que ce n'est pas des règles de politesse pour les règles de politesse, mais c'est de comprendre le bienfait. Finalement, quand on dit merci, etc., les choses se passent mieux. Et toujours les rattacher au but, c'est toujours bien. Alors, au numéro 267, le pape François dit que l'éducation morale est une formation à la liberté à travers des propositions, des motivations, des applications pratiques, des stimulations, des récompenses, des exemples, des modèles, des symboles, des réflexions, des exhortations, des révisions de la façon d'agir et des dialogues. Alors là, ça fait quand même un bon morceau, donc je crois qu'on le verra plutôt cet après-midi.